Je fais là un usage détourné de ces témoignages, c'est-à-dire que je ne vais pas étudier le fond, mais la forme, leur forme. Et à travers le corpus que je vais vous présenter, j'ai essayé de voir ce que parlaient les témoins. C'est très intéressant parce que le mémorial renferme des témoignages audio dont on m'a donné une infime sélection. Donc j'ai 10 témoignages audio qui m'ont beaucoup occupée parce qu'il a fallu les écouter très attentivement pour faire attention aux faits de langue et les transcrire également. Et ces 10 témoignages audio sur les bombardements ont été recueillis dans les années 80, donc plus de 30 ans après les événements. Ils sont conservés au mémorial de Caen qui m'a donc donné cette sélection. Une sélection de témoins parmi lesquels figure une majorité de Caennais de différents quartiers de la ville, le centre de Caen, mais aussi enfin, la rive gauche comme la rive droite, des habitants de communes limitrophes comme Louvigny, de communes de l'ouest de Caen, Aunay-sur-Odon, de l'est, Mésidon et Lisieux, et du sud, près de Falaise, Saint-Pierre-Canivet. Donc, un échantillonnage assez intéressant aussi sur le plan socioculturel, puisqu'il y a à la fois des enseignants, une enseignante, un boulanger, un médecin, mais qui était à l'époque lycéen, un prêtre, des employés de la SNCF, deux cultivatrices. Et malheureusement, pour trois d'entre eux, le mémorial et les enquêteurs de l'époque surtout n'ont aucun élément biographique. Je ne sais pas, par exemple, qui était Mademoiselle Jamillou, quelle était sa profession, quelle était son origine. On n'a donc rien sur un certain nombre d'entre eux, ni Monsieur et Madame Laberthe, dont le témoignage est intéressant pour la partie rive droite de Caen. Et finalement, c'est une étude linguistique qui peut donner quelques éléments sur l'origine géolinguistique de ces témoins. C'est assez intéressant, c'est en les écoutant que j'ai pu déterminer quelle pouvait être leur origine sociale, socio-culturelle, et également géolinguistique. Donc, ces 10 personnes interrogées ont en commun l'évocation, bien sûr, de mêmes souvenirs. Bombardement, destruction de leur habitation, fuite dans les environs ou plus loin. Et tout cela revient dans les récits des uns et des autres, tel que celui de M. Perret, qui a demandé à sa sœur, donc lorsqu'il a été interrogé par les enquêteurs, il a demandé à sa plus jeune sœur de lui écrire pour lui raconter les bombardements et la fuite de sa famille, une famille de 12 enfants.
Le 6 juin, me dit-elle, le 6 juin, l'aube, réveil hallucinant, les sirènes hurlent, le ciel est en feu. Un véritable feu d'artifice éclate. La maison de la rue Malfilâtre se désarme, l'escalier se dérobe sous nos pas. C'est moi la première, je crois, qui ai dit à maman « Vite, vite, partons !» En effet, nous arrivons chez une voisine qui avait une cape solide. Malheureusement, nous devons partir sans rien. Nous étions partis sans rien, alors que nos valises étaient prêtes. Nous pensions tellement revenir à la maison.
Alors, ces témoignages sont des témoignages, bien sûr, d'une histoire commune qu'ils ont vécue ensemble, mais enfin parallèlement. Et en fait, ce sont aussi, comme nous l'avons dit tout à l'heure, des souvenirs personnels, des souvenirs intimes qui sont chargés d'une émotion palpable, évidemment. Comme celui-ci, Madame Louise, enseignante, était réfugiée au lycée Malherbe à Caen, donc l'actuelle mairie. Et elle raconte les bombardements auxquels elle a assisté avec ses deux jeunes enfants.
Vers midi et demi, il faut bien manger, nous nous mettons à table. Quand tout à coup, voilà le tac-tac des mitrailleuses. Prends la petite, me dit Gilbert. Elle était dans son Moïse. J'obéis immédiatement, et moins de temps qu'il ne faut pour le dire, 3 balles de mitrailleuse tombent dans le berceau.
Donc, témoignage émouvant, témoignage parfois surprenant, comme cette rencontre de ce cheminot de Mésidon avec, comme il le dit, tout le grand état-major allemand.
J'ai continué avec mon vélo à la main. Et à un détour du chemin, il y avait dressé une grande table pliante en contreplaqué, une table de 5 ou 6 mètres de long sur laquelle il y avait tout un tas de cartes détalées. Et il y avait là tout le grand état-major allemand. Feldmarschall Rommel, Blumentritt, Sepp Dietrich, d'autres. Ils étaient tellement nombreux. Il y avait des gens aux pantalons à bandes rouges. Et bien sûr, j'étais un peu interloqué.
Alors, je préciserai que M. Lelay a, par hasard aussi, croisé le maréchal Rommel à la gare de Mésidon et qu'il a assisté à la chute de l'avion du maréchal. C'est un homme qui a eu des expériences très intéressantes, on le retrouvera un peu plus tard. Et parfois, eh bien, comme ce jeune garçon, il avait 15 ans et demi, on a des épisodes un peu drôles, un peu amusants.
Et c'était cocasse parce que se retrouver tout d'un coup, alors que vous avez vécu des années de pension, des mois avec des professeurs dont les rapports sont forcément des rapports d'élèves à professeurs, se retrouver là avec aussi bien les gens de service, les sœurs, les prêtres, tous assis sur des tas de patates ou du charbon dans une cave, à débiter des Notre Père, des Je vous salue Marie, ayant de temps en temps quand même envie d'aller aux toilettes, etc. Et donc...
Voilà, je vous passe la suite. Bon, ce qui est assez amusant, c'est qu'il raconte comment, après le bombardement de Lisieux, qu'il a vécu dans cette cave, il est allé avec le père supérieur sauver les hosties. Ils ont sorti le ciboire et à eux deux, ils ont mangé toutes les hosties du ciboire pour les sauver de la destruction, puisque c'était des hosties consacrées. Donc je voulais juste vous faire entendre comme ça, innocemment, ces 4 témoignages pour passer à quelque chose de plus de différent pour vous dire que ces témoignages sont des témoignages différents. Différents par leur forme déjà, parce qu'on a à la fois le mode du journal tenu par un témoin, Madame Louise, la jeune femme avec son bébé. Elle a dû écrire au jour le jour son journal parce qu'elle dévide devant son interlocuteur, son intervieweur, un certain nombre de faits, de journées qu'elle lit. Donc on a dans ce cas un écrit lu. De la même façon, c'est la lettre de Mademoiselle Perret tout à l'heure qui raconte comment la bombe est tombée sur leur maison. C'est son frère qui va lire le témoignage de sa sœur. Et on a également, parmi ces 10 témoignages, une lettre adressée au maire de Caen par Monsieur Le Riche, qui habitait du côté de l'abbaye aux Dames, et qui raconte au maire de Caen les exploits, enfin les hauts faits qu'il a accomplis.
Devant l'intensité des bombardements, mon père ayant une baraque dans son jardin situé dans les Clos Beaubois, nous partîmes avec le nécessaire de survie. Vers cet endroit où nous restâmes pendant 2 jours avec nos amis, Monsieur et Madame Longuet et leur fils, boulanger, place Saint-Gilles. Les bombardements ne cessant pas, et les bombes tombant dans les alentours, nous décidâmes de chercher refuge à l'hôpital Saint-Louis.
Alors, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est sur le fait qu'il y a là lecture d'un récit qui a été rédigé auparavant. Son auteur a pu y apporter tous les aménagements voulus et on remarque combien la lecture est fluide, combien elle est sans heurts, sans redites, sans rectification. Donc, il lit un texte qu'il a élaboré précédemment et d'autre part, ça c'est sur la diction, d'autre part, il y a là tous les éléments d'un récit écrit. C'est un récit au passé simple, nous partîmes, nous décidâmes. C'est un récit dans lequel l'auteur dit « nous » et non pas « on ». Et d'autre part, vous pouvez remarquer l'usage de la négation « ne pas », les bombardements ne cessant pas. On a ici donc un récit construit, élaboré, qui n'est pas spontané. Ce qui est intéressant, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là, c'est que le même locuteur, il va répondre à une question. Et cette fois-ci, vous allez voir que c'est totalement différent.
Oui, parce que vous en avez vu venir, étant donné d'ailleurs que le jour du débarquement, vous étiez à Caen par hasard.
Par hasard, oui, par hasard. J'étais à la communion de ma sœur et il est évident que le débarquement ayant lieu, je n'ai pas pu regagner Cherbourg, où je travaillais au MVA pour les Allemands, évidemment, en tant que boulanger. Et alors là, il est évident que, restant sur place, eh bien, je me suis employé à faire de mon mieux pour, vu les circonstances, à faire ce que peut-être d'autres auraient fait à ma place, si je n'avais pas été là, mais enfin, puisque ma présence était là, c'était mon devoir de le faire.
Voilà. Alors, vous voyez ici les hésitations, les redites, les rectifications, certaines onomatopées, exclamation. Ce qui est intéressant aussi, vous voyez, c'est que cette fois-ci, on passe à une négation qui est « j'ai pas pu hein. ». On a « peut-être » et non pas « peut-être ». On a donc ici un autre niveau de langue, un niveau de langue qui est certainement plus révélateur de ce que parle au quotidien ce locuteur. Donc, ici, je reviens à Madame Louise, simplement pour vous faire entendre justement le niveau de langue de ce témoin.
Les deux Anglais qui sont arrivés les premiers au lycée étaient ivres de fatigue. Ils furent portés en triomphe sur les épaules des hommes et sont allés dormir, je crois. Vers 5 ou 6 heures du soir, le drapeau français a été hissé dans le lycée. Il faut comprendre la joie folle de nous tous. Nous nous précipitons à la grande porte. Nous sommes derrière. Les enfants se faufilent comme ils peuvent. Mais le drapeau monte, monte, et je ne puis retenir mes larmes. Il y a eu 9 jours entre la prise de Caen et celle de Vaucelles. Alors ce ne sont plus des bombes que nous recevons, mais des obus. Les obus tombent à tout moment, il n'y a pas de répit.
Donc ici, une lecture en français soutenue, avec toujours les composantes passé simple, le pronom personnel « nous », la négation « ne pas », et même la forme élaborée du verbe « pouvoir » à la première personne du singulier du présent de l'indicatif, « je puis » et non pas « je ne peux ». Donc ici, un français écrit, élaboré, mais un français lu, malgré tout, c'est-à-dire que les liaisons ne sont pas toujours réalisées. Les Anglais arrivés les premiers au lycée étaient ivres de fatigue, et non pas étaient ivres de fatigue, et des non-réalisations du « e » caduc, par exemple, « je ne puis retenir mes larmes ». Donc ça reste quand même du français oral. Alors, voilà une réponse en français.
Nous arrivons mercredi. Alors, on voit arriver une Peugeot avec toit ouvrant. Un officier en sort. Il était debout dans cette Peugeot dépassant du toit. Et en allemand, parce qu'il ne parlait pas français, il demande quelque chose. À ce moment-là, Châtelain, qui parlait l'allemand, se précipite pour faire l'interprète. Et il nous dit, à M. Dupont et à moi, il demande infirmiers, deux ambulanciers pour aller chercher un blessé allemand entre les lignes qui ne peuvent pas aller chercher parce que les Anglais tirent de l'autre côté du pont.
Voilà. Alors là, en fait, hein, on a bien un discours en français spontané, français oral, courant, en fait. C'est celui que vous et moi, nous emploierions dans une conversation courante. Vous voyez qu'il y a des hésitations, mais assez modérées. Il y a à la fois l'emploi de « nous » et l'emploi de « on ». La négation peut être une négation « ne pas » ou la négation « pas ». En fait, c'est le français quotidien de chacun d'entre nous, ce qu'on pourrait appeler un français oral standard. l'abbé Paul dont je parlais tout à l'heure est intéressant parce que c'est un ecclésiastique qui cite volontiers Sueton. Je ne suis pas sûre d'ailleurs que la phrase en latin qu'il cite soit vraiment du Sueton, qui commence son entretien en utilisant des belles phrases, le « nous », le « ne pas », etc., le passé simple. Et puis, comme beaucoup de ses témoins, à partir du moment où il est bien entré dans la relation avec son interlocuteur, il va se mettre à révéler véritablement le français qui est le sien. C'est-à-dire un français qui peut ne pas être vraiment un français conventionnel, comme vous allez le voir ici. Ce sont les bombardements à Aulnay-sur-Odon.
Alors, le mardi, la journée de mardi, c'est la journée des incendies. Ça commençait surtout donc dans ces ruines, là, qui étaient du centre de la place de la mairie. Mais évidemment, ça s'est propagé tant que ça a pu. C'était lamentable, on aurait dit, un feu d'artifice formidable. Moi, je me souviens m'étais réfugié dans un champ, pas très loin du centre, même peut-être à 150 mètres de mon presbytère. J'ai passé la nuit là, appuyé le dos à un pommier. Il y avait mon vicaire avec moi. Il y avait ma bonne qui était là aussi. Nous étions là, les bras croisés, adossés à un pommier. C'était fulgurant, une cale de dire. C'était un peu d'artifice formidable. C'était abominable, hein, réellement. Hein. Et tout a gagné petit à petit, petit à petit, petit à petit. C'est ce mardi-là.
Alors, dans ce témoignage, deux traits de français oral se répètent. D'une part, la forme « y avait » et non « il y avait ». C'est celle qu'on emploie spontanément dans une conversation. Je rentre tard parce qu'il y avait du monde. Il y avait la foule, il y avait des embouteillages. Bon, là, c'est « il y avait mon vicaire avec moi, il y avait ma bonne ». Donc, français plutôt familier. Et puis un trait de français qu'on nommerait plutôt français non conventionnel, français populaire, c'est « y avait ma bonne qui était là ». C'est l'élision du relatif « qui finit par se confondre avec le relatif « que ». Et ça, c'est un trait de français non conventionnel un peu stigmatisant. C'est-à-dire qu'il montre en fait que au-delà de la formation solide, probablement, qu'a reçu l'abbé, qui est donc probablement passé par le séminaire, par des études de latin, puisqu'il cite Sueton, eh bien, il y a chez lui une formation peut-être familiale qui n'a pas été effacée par la culture, par l'éducation. Et c'est ça, c'est assez révélateur, et c'est révélateur de quelque chose qu'il ne maîtrise pas, dont il n'a pas conscience. C'est la même chose pour le fameux boulanger de tout à l'heure.
Estrait de l'ordre numéro 121 FMF3, l'amiral de la flotte F. Darlan, ministre secrétaire d'État à la marine, commandant en chef des forces maritimes françaises, cite à l'ordre de l'armée de mer le patrouilleur Cérons. Le Cérons, commandé par l'enseigne de vaisseau de réserve Eve, échoué sous le feu de l'ennemi, n'en a pas moins continué à assurer la protection de l'embarquement des troupes à la plage de Veules-les-Roses, à riposter par un feu violent et précis au coup de l'ennemi, jusqu'à ce que l'explosion des grenades entraîne la destruction du bâtiment.
Alors, dans ce témoignage-là, vous avez un trait particulièrement stigmatisant de la prononciation du français, qui n'est pas stigmatisant du tout en italien, puisque le groupe X-K-S, en italien, se simplifie, hein, c'est simplifié en spe, hein, ou ste, etc. Alors qu'en français, on écrit avec un X et on prononce extrait et explosion. Et cette prononciation-là, dont le locuteur n'a absolument pas conscience, parce qu'il est en train de lire une citation à l'ordre de la marine de son bâtiment sur lequel il était engagé pendant la guerre, eh bien, il va deux fois de suite réaliser ce trait qui est un trait populaire de la prononciation du français. Le même locuteur, racontant comment, réfugié du côté de Falaise, il va assister au bombardement sur la ville de Chambois, et va raconter comment on va enterrer les milliers de morts, hommes et chevaux, qu'on trouve dans cette ville. Et
c'est bien simple, ils ont fait l'armée, lorsqu'elle est arrivée, a commencé le premier travail, c'était de faire dans les champs à Beltoise, qui était cultivateur à côté, des grands trous. Et avec des bulldozers pousser les chevaux, les morts dans ces trous immenses et les arroser de pétrole et de les brûler, pour éviter toutes les épidémies.
Alors là, le trait particulièrement stigmatisant, c'est bien sûr la construction par A du complément du nom, qui est très courant, en fait, dans la prononciation populaire, dans le français populaire, mais qui est totalement exclu depuis le début du XVIIe siècle du français standard et recherché. Donc là, on a encore, vous voyez, avec le trait précédent, extrait, explosion, et la construction par A, on peut dire que ce témoin a un niveau socioculturel qui est un niveau populaire. Et que la formation scolaire qu'il a pu subir, qu'il a pu suivre ultérieurement, n'a pas gommé les traits qui lui ont été inculqués par sa famille. Qu'il reproduit de façon tout à fait inconsciente. Là, ce sont des traits. On va avoir maintenant ici un discours oral totalement non conventionnel chez un cheminot des environs de Caen.
Alors, le matin, moi, il fallait que je parte au boulot. En sortant de la maison, les copains qui étaient amis qui me disaient « Où c'est que tu vas ?» Ben, tu m'as fait au boulot. Alors, j'ai fait à peu près 50 mètres et puis, réflexion faite, j'ai dit « Mais... » Je vais me faire casser la gueule pour eux, aller rentrer à la maison.
Là, vous voyez, c'est un discours totalement non conventionnel, celui que nous ne pourrions pas avoir ensemble en discutant comme ça à l'université de Caen. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? La première remarque qu'on peut faire, et celle qui est vraiment du français populaire, c'est l'interrogation. Où c'est que tu vas? On dirait « Où vas-tu ? Où est-ce que tu vas ?» Ça, ce sont des niveaux de langue courants, mais le « Où c'est que tu vas ?» nous met dans une autre catégorie, dans un autre registre de langue. Alors, également, le verbe « falloir », verbe impersonnel, sans le sujet impersonnel, « fallait ». Alors, on a dans les textes « faut »,« fallait »,« faudra », et même un passé composé qui est encore plus non conventionnel, « a fallu », que j'ai rencontré une fois chez un des témoins. Bon, on a également, bien sûr, tout le choix du vocabulaire. Le mot « boulot » pour « travail », le mot « copain » pour « ami » ou « camarade », le verbe « casser la gueule ». Donc, on a ici un ensemble de français populaire qui est, là aussi, révélateur des origines socioculturelles du témoin. Cette fois-ci, nous passons dans un autre registre de langue. Il s'agit d'une cultivatrice de la région de Lisieux qui... Alors, ce que je voulais vous dire, oui, à propos quand même du témoignage précédent, c'est que finalement, chacun d'entre nous pourrait utiliser le vocabulaire, le boulot, les copains, casser la gueule. Chacun d'entre nous peut l'utiliser là, dans son potentiel linguistique, et l'utilise. En revanche... Où c'est que tu vas? Là, il faut vraiment... Enfin, je crois que on y renoncerait, sauf peut-être si on voulait, comme chez Molière, parler populaire, quoi. Hein, ce serait volontaire. En revanche, donc, chez la cultivatrice dont nous allons entendre l'interview ici, nous sommes dans un autre registre de langue. C'est à la fois du français non conventionnel, du français populaire, et avec des traits dialectaux. Et vous allez l'entendre, on voit nettement la différence.
Alors, les motos, il a les rangées dans les étables, là, en arrière de la maison. Et puis les jupes, ils étaient sous les arbres, sous les pommiers, les arbres, tout. Ils étaient cachés, là. Mais il n'y a pas eu, on n'a jamais eu de combat, hein. Ah non, mais dans les yeux, là, je crois pas qu'il y ait eu grand-chose.
Oh, quand même. Mais oui. Chez vous, comment s'est passée la libération ?
Ben, je vous dis, ils ont parti sans me dire. Un matin, les chefs, ils brûlaient leurs papiers dans le jardin. Alors, mon mari me dit, ouh, il dit, ça, c'est mauvais, ça. Donc, tu les vois brûler leurs papiers, c'est mauvais, hein.
Donc, vous voyez, bon, il y a à la fois des intonations, des allongements. Il y a bien sûr tous les éléments du français familier, du français populaire que nous avons déjà vu, mais il y a aussi des traits dialectaux qui sont intéressants, qui sont d'abord l'usage du pronom personnel masculin pluriel « il » sans « s »,« il allait », ils ont parti. Et cet usage-là, c'est un usage dialectal et régional. On entend encore, en français régional, pas simplement en patois, mais en français régional, des locuteurs utiliser ce « il » sans « s », qui était la forme du pronom personnel de première personne du pluriel, de troisième personne du pluriel au masculin, de l'ancien français. C'était la forme médiévale. Donc, on a ici une locutrice qui est une locutrice normande. Et le deuxième élément, c'est l'élision d'un « et » initial, vous voyez, « il t'est », hein, l'Égypte, il t'est sous les arbres, et il t'est caché, là. Je ne suis pas sûre que la locutrice sache que le mot jeep est un mot féminin. Hein. Mais même si elle le savait, peut-être utiliserait-elle le il masculin, comme ça se fait souvent en français régional de Normandie. On pourrait dire, mes filles, ils sont formidables. Donc, on a ici, vous voyez, on passe dans un autre registre de langue, familier, populaire et régional, hein, avec des éléments régionaux intéressants. Je vais passer à la dernière cultivatrice. Là, nous sommes non plus dans du régional, c'est-à-dire dans du français régional, mais nous sommes dans un français qui est fortement, vous allez voir, influencé par le patois.
Mais quand on arrivait là chez la belle-mère, eh bien, on trouvait des carcasses de volailles. Il avait tué les volailles, il avait tué les lapins, monsieur le comte, qu'il avait mis dans le jardin de la belle-mère. Il était tué, il avait reçu la balle dans le ventre, des gros lapins qu'on trouvait à travers les légumes. Oh, c'est pas pensable.
C'était les Allemands qui avaient fait ça.
Ah, les Allemands, ils étaient là.
Alors, vous voyez là, des composantes totalement différentes. Hein. Bien sûr, vous avez senti le R apical abattement du sud de l'Orne, de l'Orne, du sud du Calvados, du sud Manche. Hein. Donc, cette locutrice n'a pas d'autre R que ce R apical. D'autre part, vous remarquerez aussi des traits dialectaux intéressants. Le premier, celui que vous avez sur la première ligne, c'est l'utilisation du passé simple, d'un passé simple en « i », on arrive « i », qui a été jusqu'au XXe siècle, très courant dialectalement, et avec comme corollaire le maintien du subjonctif imparfait. On aurait pu dire « fallait qu'on arrive « i ». Et d'autre part, vous remarquerez aussi un trait de phonologie intéressant qui est « il t'est tué », la forme ouverte du « et » d'un masculin pluriel qui va s'opposer à une forme fermée au singulier. « Il t'est tué », ce serait un singulier, « il t'est tué », c'est un pluriel. Donc, elle a ici des éléments phonologiques dialectaux qui transparaissent dans son français. On remarquera aussi un « a » d'arrière, un « a » vélaire, « volaille », avec un allongement. Enfin, elle a tout un système qui, cette fois-ci, est un système fortement influencé par le dialecte.
Et il y avait eu un homme de tué, un homme de falaise qui avait été au ravitaillement. Il était en moto, mais il fut tué.
Voilà. Alors, simplement pour vous montrer que Le passé simple est vraiment un tiroir verbal qu'utilise couramment cette locutrice qui, par ailleurs, dans le passage, vous voyez, hein, dit « épi qu'avait été au ravitaillement ». Donc, ce n'est pas un discours soigné, recherché, elle ne s'observe pas, hein, mais elle va, elle utilise spontanément le passé simple qui est un temps du récit dialectal. Voilà. Alors, c'est justement ça que je voulais souligner, c'est que j'ai un tout petit échantillonnage de textes. Il serait intéressant, évidemment, d'aller fouiller tous les autres, mais chez 9 des 10 témoins que j'ai écoutés attentivement, il y a des traits dialectaux. Parfois, ce sont simplement des termes de français régional dont ils n'ont pas conscience qu'ils ne sont pas du français conventionnel, du français standard. Vous voyez, chez le professeur du lycée Malherbe, elle va utiliser le mot « berne » au sens de « bas-côté d'une route ». Monsieur Lelay utilise le mot tout de suite avec le sens de « en ce moment », là où en français standard, ça veut dire « bientôt », dans le moment qui va suivre. Hein. Mais si je dis, par exemple, « tout de suite, il ne pleut pas », c'est le sens régional de cette locution adverbiale. Un autre des témoins va employer le mot « sale » au sens de « salle à manger ». C'est courant, mais ce n'est pas dans les dictionnaires du français standard. Donc, parfois, chez certains de ces locuteurs, le dialectalisme ou le régionalisme se limite à ce détail lexical. Pour d'autres, bien sûr, les détails vont s'accumuler, comme nous l'avons vu, hein, ils vont dire « il t'est »,« on t'est »,« ça t'sendait », donc des formes avec élision de la voyelle initiale. Le pronom de troisième personne du pluriel est utilisé sous sa forme « il » sans « s » devant voyelle par un certain nombre des témoins. Et puis, chacun d'entre eux a ses traits dialectaux ou régionaux personnels. Et la cultivatrice, Madame Texier, en a une bonne douzaine dans son interview de 15 minutes. Vous voyez donc, on a des disparités qui sont très intéressantes chez ces locuteurs. Donc, en fait, là, je vous donne un petit aperçu de l'étude que j'ai faite. Je la mettrai sur le site, peut-être, si ça peut intéresser, enfin, si ça peut vous intéresser. Ce que je voulais dire, c'est que cette rapide étude sur un très petit échantillonnage a tenté de montrer l'intérêt linguistique d'un tel corpus. Ce qui me semble très intéressant, c'est que les témoins sont tous occupés à relater des événements qui les ont profondément marqués. Et même si au début, ils se contrôlent, ils se surveillent, sans en être conscients, petit à petit, ils se relâchent et ils révèlent en fait leur ancrage, leur langage ordinaire et à travers lui, à la fois leur origine socio-culturelle et leur ancrage géolinguistique. Certains l'ont fait discrètement, d'autres au contraire massivement, quand l'influence de l'école et de la formation personnelle n'a pas contré chez eux l'influence de la famille et de l'entourage. Je pense que ces caractéristiques originales sont très présentes, sont probablement présentes dans les enregistrements conservés au mémorial de Caen, qui constituent donc une mine de renseignements sur ce que parlent les Normands. Hein, car vous avez ici des Normands qui parlaient à des Normands, probablement, hein, mais c'est assez intéressant de le constater de voir que, finalement, ces témoignages du mémorial sont intéressants à plusieurs titres et peuvent être utilisés à plusieurs titres. Ça peut être un corpus linguistique formidable. Voilà.